Merci, Sylvain. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jesse et je suis l'un des pasteurs de l'Église évangélique de la Croix-Rousse. C'est un privilège de pouvoir prêcher l'Évangile à travers le livre de Tite ce soir. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez pour la célébration, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Vous vous demandez peut-être quel est mon bel accent. Je suis américaine et ceci explique cela. Donc, pour les nouveaux et pour ceux qui sont ici depuis longtemps, tenez bon car j'espère que mon français ne sera pas trop difficile pour vos oreilles. Avant de commencer, j'ai une confession à faire. Je n'étais pas très enthousiaste au début, à l'idée de prêcher sur ce passage. Il se trouve pris en sandwich entre deux des plus belles proclamations de l'Évangile que nous ayons dans toutes les Écritures. Lorsque nous avons divisé la prédication de Tite, et au moment où j'ai réalisé que c'était sur ce passage que je devais prêcher, j'ai d'abord été déçu parce que les deux passages autour sont tellement incroyables. Mais comme Dieu le fait toujours avec sa parole, il a utilisé ces versets pour me façonner au cours des derniers mois. Alors que je me préparais, je suis convaincu qu'il fera la même chose pour vous aussi. Ok, on va commencer. Nous sommes où maintenant? Alors que nous arrivons sur la fin de ce petit livre percutant, le mois dernier, Matthieu a prêché sur les implications éthiques de l'Évangile dans Tite 2, verset 1 jusqu'à 10. Puis Daniel a parlé du message du corps de l'Évangile à la fin du chapitre 2. La prochaine fois, J.D. va prêcher et il va prêcher sur le cœur du message de l'Évangile. Mais ce soir, nous allons regarder Tite 2, verset 15 jusqu'à Tite 3, verset 3. Nous verrons quels sont les moyens pratiques pour mettre l'Évangile en action. Paul nous donne sa vision de témoignage de l'Évangile.
Ouais, ça va.
C'est bien. OK. Avant de plonger dans le texte, je vais prier et demander à Dieu d'utiliser sa parole par son esprit pour forger en nous un désir renouvelé de vivre cet Évangile que nous proclamons. Priez avec moi. Notre Père, merci pour cette occasion de prêcher ta parole dans ton Église. Aide-moi à proclamer ce passage en ayant confiance que tu as fini l'œuvre que tu as commencée à travers la mort et la résurrection de ton Fils, Jésus. Par la puissance de son esprit, que nos cœurs soient ouverts et notre esprit formé pour vivre comme une Église en mission pour toi. Au nom de Jésus. Amen. OK. Voici le cadre qui, je l'espère, nous aiderait à comprendre ce passage. Le premier point, c'est la vie audacieuse. Le deuxième, la vie publique. Et finalement, on voit la vie laide. Allons-y. La vie audacieuse. Dis ces choses, encourage et reprendre avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Pourquoi mon premier point s'appelle la vie audacieuse? Parce que Paul donne des instructions très fortes à Tite. La base de tout ce que Paul va dire dans Tite 2, verset 15, repose sur un leadership audacieux. Dis ces choses. Quelles sont les choses auxquelles Paul fait référence? La saine doctrine, ce verset est un résumé et une conclusion pour le chapitre 2. La saine doctrine est ce avec quoi Paul a commencé au chapitre 2, verset 1. Il rappelle donc à Tite qu'il est important de communiquer la saine doctrine. Mais ensuite, il continue en lui expliquant de quelle manière le faire. Encourage et reprendre. C'est un thème que nous voyons tout au long de l'épître de Tite. L'idée revient au chapitre 1, verset 9. Attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Encourager et reprendre est une partie importante du rôle de l'ancien au sein d'une église. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce important de faire les deux en même temps? Le rôle d'un ancien est d'être un bon berger, comme Dieu, notre Père. C'est pour la santé et la protection de l'Église. Quand nous parlons d'encourager dans l'Évangile, il d'aider quelqu'un à continuer dans leur foi, dans leur sanctification aussi. Et encore, lorsque nous parlons de réprimande dans l'Évangile, nous parlons d'aider quelqu'un à se repentir et à se détourner de son péché. Il faut un niveau de maturité et d'expérience de la grâce de Dieu pour pouvoir bien faire ces deux choses. On trouve souvent des personnes capables d'encourager, mais incapables de réprimander, ou des personnes qui reprennent facilement les autres, mais ne savent pas encourager. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a bien modelé pour moi cela, mais il n'est pas seulement un pasteur, il est mon beau-père. C'est compliqué, mais c'est toujours chouette. Parce que depuis 14 ans que je le connais, il m'a par amour encouragé dans le ministère et reprimandé lorsque j'avais besoin d'être corrigé. Il n'est pas toujours facile de recevoir cette correction, mais il m'a beaucoup aidé et à grandir. En réfléchissant à comment vous pouvez vous améliorer dans ce domaine, vous pouvez vous demander entre les deux, lequel des deux attitudes est plus simple à avoir pour vous et pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens dans votre vie que vous pouvez encourager et reprendre avec douceur et sensibilité? OK. Ensuite, avec une pleine autorité, on voit que c'est un sujet qui est bien plus facile à éviter qu'à approfondir. Récemment, aux États-Unis, toute une vague de pasteurs ont été forcés à démissionner parce qu'ils n'avaient pas géré l'autorité dans l'Église comme Dieu le désirait. Au lieu de diriger avec douceur et humilité, ils ont abusé de leur autorité. Je connais personnellement deux de ces pasteurs. Cela me peine beaucoup. Il est donc clair que l'autorité peut être un sujet sensible. Mais Paul ne dit pas simplement autorité, il dit une pleine autorité. Il met vraiment l'accent sur cette autorité. L'autorité dans l'Église fait partie d'un bon dessein de Dieu. Alors, au lieu d'éviter le sujet, examinons ce que Paul dit ici et comment vivre avec une autorité qui reflète le caractère de Dieu et non celui de l'homme. Pour comprendre ce sujet, nous allons essayer de répondre à quelques questions. D'où vient cette autorité et à qui appartient-elle? Cette autorité a été donnée par Paul à Tite, mais elle tire son origine de Dieu. Revenons rapidement à Tite 1, verset 1 jusqu'à 4. On voit de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promis avant tout le temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant, dans la foi qui nous est en commun, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu a confié à Paul, son serviteur, la prédication du message de l'Évangile. Et Paul a ensuite conféré cette autorité qu'il avait reçue de Dieu. L'autorité de Tite trouve sa source en Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? En première, Tite pouvait diriger les chrétiens avec une pleine autorité parce qu'il avait le soutien de Dieu. La plan autorité que Paul commande à Tite d'avoir ne vient pas de Tite lui-même. En deuxième moment, nous voyons que Tite ne devait pas mener seul. Ceci est un autre dessein de Dieu. L'Église est d'être conduite avec une plan autorité, mais avec une pluralité des anciens. Autorité de faire quoi exactement? Lorsque l'Église fonctionne de manière saine, les anciens exercent leur autorité avec confiance dans le rôle que Dieu a confié, mais avec humilité et amour. Et lorsque cela se produit, cela permet au corps de Christ de suivre leur exemple et d'obéir à ce message qui est la parole de Dieu. Donc, pour nous, en tant que vos responsables, nous pouvons avoir confiance dans notre message, non pas parce que nous sommes particulièrement intelligents ou sages, c'est clair, mais parce que nous avons le soutien de Dieu que nous a confié le partage du message de l'Évangile. Encore une fois, cette autorité doit toujours être traitée en toute humilité. Comme le dit Paul en Tite 1, je suis un serviteur de Dieu. Ensuite, que personne ne te méprise. Ne laissez personne vous mépriser. Paul a donné des encouragements similaires à Timothée. En Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta purité. Le désir de Paul envers ces jeunes leaders est qu'ils restent fermes. L'opposition est souvent la norme. Tite et Timothée ont fait face à des oppositions et cela a probablement continué après que Paul ait écrit ces lettres. Mais que dit Paul à Timothée? L'antidote à l'opposition n'est pas de se mettre en colère ou d'être combatif. Oui, il devait se réprimander, mais c'est toujours dans la douceur et l'amour. Paul encourage également Timothée et Tite à montrer l'exemple au lieu d'être mêlés au conflit. Restez fermes et confiants dans l'appel de Dieu. Donnez et montrez l'exemple selon votre façon de vivre. OK. Le deuxième point, c'est la vie publique. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Dans cette première partie du chapitre 3, nous voyons deux modes de vie différents, très différents. Ces deux manières de vivre sont le résultat de ce que Paul disait à Tite au verset 12 du chapitre 2. Elle nous enseigne à renoncer au mode de vie impie et aux convoitises de ce mode et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. Au chapitre 3, Paul donne ses instructions claires, précises et les uns à la suite les autres pour souligner l'importance de ce qu'il dit. On voit, il décrit un mode de vie contre-culturel et radical, c'est-à-dire une vie publique. Il donne les implications pratiques d'une vie façonnée par la bonne nouvelle. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités de leur obéir. On voit ça, mais cette injonction a sûrement été choquante pour l'Église de Crète. Ce n'était pas une tâche facile de se soumettre de cette façon. Important, Paul leur dit qu'ils doivent se soumettre. Je vous partage un passage d'un écrivain qui a vécu à l'époque, Polybe. Il brosse un tableau assez sombre de la profondeur de la déprivation en Crète. En fait, le sordide amour du gain et la soif de richesse prévalent parmi eux, de sorte que les Crétois sont le seul peuple au monde aux yeux desquels aucun gain n'est honteux. Les Crétois, en revanche, du fait de leur soif de richesse, sont impliqués de façon constante dans les affaires publiques et privées, ainsi que dans les meurtres et la guerre civile. Il serait aujourd'hui impossible de trouver une conduite plus perfide ou une politique plus injuste qu'en Crète. Et pourtant, Paul commande à ses croyants crétois de se soumettre à l'autorité, même si leur gouvernement était probablement très, très corrompu. Comment Paul peut-il alors dire à ses croyants de se soumettre ainsi? On voit avec cette citation, Paul n'ordonne pas aveuglément en titre d'imposer une obéissance aveugle à la loi civile. Il annonce que dans un contexte comme celui-ci, les chrétiens devraient être des sujets exemplaires. Tu vois ça? Des sujets exemplaires. Même dans un ordre social païen, la grâce particulière qu'ils ont reçue en Christ devrait renforcer en non et non réduire leur coopération avec la grâce commune trouvée dans le gouvernement humain dans la mesure du possible. Cela signifie donc, autant que possible, Paul nous encourage à vivre quotidiennement de manière à témoigner des réalités de l'Évangile au sein de nos interactions avec le gouvernement. Et cela nous amène à la partie suivante de ce passage. D'être prêt pour toute bonne œuvre. Paul est sur le point de souligner notre désir et notre motivation à faire le bien. Paul décrit ici un enthousiasme d'être prêt pour toute œuvre bonne, redéfinir pour nous ce qui signifie vivre l'Évangile que nous proclamons. Cette idée de toute bonne œuvre est un autre thème que nous voyons tout au long de l'épître de Tite. Paul parle sur ce sujet au moins de 5 fois tout au long de sa petite lettre. C'est clairement quelque chose qu'il veut souligner à Tite. Regardons Jacques 2 pour donner plus de contexte à notre passage dans Tite. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Il en va de même pour la foi si elle ne produit pas d'œuvres. Elle est morte en elle-même. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est fort, hein? En d'autres termes, une foi vivante est clairement exprimée par ce que l'on fait. L'évangile en action est un évangile qui se vit dans nos bonnes œuvres. Nos œuvres ne vous sauvent pas, mais elles sont sans aucun doute le signe d'un cœur et d'une vie véritablement transformée par l'évangile. Mais comment pouvons-nous maintenir une vie de bonnes œuvres zélées? Qu'est-ce qui nous permet de nous révéler jour après jour après jour avec l'énergie nécessaire pour faire le bien? Tite 2, verset 14 dit, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour des belles œuvres. » Paul nous dit dans ce verset que nous avons été rachetés et de la méchanceté par Christ en tant que son peuple, le corps de Christ. C'est ce qui nous permet de vouloir faire le bien. Quel est le but de vivre de cette façon? C'est la preuve d'une personne et d'une église qui était changée par l'Évangile. Lorsque nous vivons de cette façon, nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et cela confirme le message que nous proclamons. En tant qu'Église, je veux nous voir augmenter nos capacités à témoigner de plus en plus de cette manière, comme le décrit Paul. Depuis un mois, nous parlons de l'événement qui s'appelle Noël pour Lyon, qui nous aurons le 14 et 15 décembre pour servir notre quartier de la Croix-Rousse. C'est une occasion de mettre en action nos bonnes œuvres en servant les réfugiés et en témoignant près du marché de Noël de la Croix-Rousse pour inviter les personnes à notre culte de Noël. En tant que pasteur, nous aimerions voir le plus grand nombre d'entre vous saisir cette occasion pour mettre votre foi en action. De ne calomnier personne. Calomnie signifie le fait de faire une fausse déclaration verbale portant atteinte à la réputation d'une personne. Qui parmi nous est tenté de calomnier? C'est moi. Mais j'imagine que ce n'est pas juste moi. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un domaine extrêmement facile à faire et à justifier parce que nous pensons que ce n'est pas un très gros problème. Mais le calomnier peut être un péché subtil, mais il est destructeur et dangereux. Nous voyons dans Proverbe 10, verset 18, que quelqu'un qui calomnie s'appelle un imbécile ou stupide. C'est grave, c'est pas la petite chose. Mais lorsque nous évitons de tomber de ce péage, nous menons une vie contre-culturelle qui reflète le caractère de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Où trouvons-nous la motivation pour refuser de calomnier quelqu'un? On voit avec cette citation. La raison pour laquelle nous sommes appelés à éviter de dire du mal des gens, à être querelleurs, c'est que nous sommes nous-mêmes les créations d'un Dieu qui aime généreusement. Et si nous ne montrons pas ce même amour généreux, bienveillant et qui pardonne, nous avons manifestement oublié nos origines. Éphésiens 4, versets 31 et 32 dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. L'amour généreux de Dieu suscite en nous un amour généreux envers les autres. Cela change nos perspectives et nos désirs. En plus, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. J'apprécie vraiment comment la version parole de vie traduit ce verset. Qu'il soit bon et montré sans cesse de la douceur envers tous. Dans la grande histoire de Dieu, il m'arrive parfois d'effacer des personnages, des gens qui, à mon goût, ne changent pas ou pas assez vite. Et du coup, je n'ai ni besoin d'être doux ou patient envers eux. Et pourtant, ce verset indique clairement que ce n'est pas une option. Une vie chrétienne signifie que je montre ces qualités à ma famille, à mes amis et à mes voisins. Je ne choisis pas à qui montrer l'amour de Dieu. Quand vous pensez à une manière de vivre douce et pacifique, à quel autre verset pensez-vous? Pour moi, Jésus nous dit dans le Sermon sur le montant, « Heureux ceux qui sont Dieu, car ils hériteront la terre. » Heureux ceux qui procuraient la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Une fois encore, nous voyons une autre manière de témoigner de l'Évangile que nous proclamons en vivant de manière paisible, bienveillante et remplie de douceur envers tous les hommes. Mais comment pouvons-nous nous aider mutuellement à vivre de cette manière? D'une manière concrète, peut-être pourrait être de participer à une église de maison ou entre femmes et entre hommes. C'est dans cette intimité que nous apprenons à nous connaître les uns et les autres et grandir ensemble vers Jésus. Et avec le dernier point, la vie laide. Et enfin, regardons le dernier verset de ce passage. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Le premier mot que j'ai dans la tête lorsque je lis ce verset est « laid ». Quelle manière de vivre, laide et sombre. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois. En époque, Paul rempli de mal, il décrit son propre état avant sa conversion. Il s'aligne également sur la culture crétoise, car c'est une façon de vivre que les croyants crétois connaissaient bien. Je vais vous lire ce défaut une fois de plus. Stupide, rebelle, égaré, esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. La méchanceté, l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais ce verset doit également être lu comme un avertissement. L'alignement de Paul sur la culture crétoise et la reconnaissance de ce qu'il était avant Christ constitue un moyen de lutter contre la réaction humaine typique qui consiste à rechercher la supériorité morale sur les autres. Paul dit à ces chrétiens crétois que, une fois, j'étais comme ça, mais vous aussi. Nous étions tous spirituellement dans le besoin avant Christ. Que dit Paul dans Romains 2, verset 4? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité? On ne reconnaissait pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. En tant que croyants, nous devons faire attention à ne pas devenir arrogants dans notre désir de mener une vie pieuse et éthique. Cette arrogance ne témoigne pas de la bonne nouvelle, mais peut souvent éloigner les non-croyants de Christ. Cet orgueil n'est pas seulement peu effrayant, mais c'est aussi une incompréhension de la bonne nouvelle. Pour que la bonne nouvelle soit vraiment bonne, nous devons reconnaître notre état tellement laid sans Christ. L'œuvre achevée de Christ en nous est ce qui nous permet de vivre une vie pieuse. Ce n'est pas notre bon comportement qui nous rend juste. Nous sommes arrivés au moment de résumer tout ce que nous avons attendu ce soir. Vous êtes toujours avec moi? OK. Après ce que vous avez entendu, quel mode de vie correspond le plus à votre vie actuelle? La vie conformément à la sagesse, la justice et la piété, ou un mode de vie impie et plein de convoitises? Les jeunes n'aiment pas trop quand on leur parle de maîtresse de soi, de soumission. Par contre, ils sont attirés à nous lorsqu'on vit ces qualités. Les non-croyants qui trouvent la moralité chrétienne restrictive sont souvent attirés par la bonne vie des chrétiens qu'ils connaissent. C'est parce qu'une vie qui reflète l'Évangile est une bonne vie. C'est une vie intègre, contre-culturelle, qui fait l'éloge de Dieu au sein de notre culture. Pour les chrétiens ici ce soir, j'espère que vous repartirez en n'oubliant pas, dans Éphésiens 2, verset 10, Paul nous dit que vous avez été créés en Christ pour faire le bien. Nos bonnes œuvres découlent d'une vie changée par le bel évangile, ce qui a un impact radical sur qui nous sommes et comment nous vivons. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens dans cette salle, voici ce qui est important pour vous. Je vous encourage à réfléchir à votre mode de vie. Si vous savez que vous vivez plus comme le décrit le verset 3, j'espère que vous avez bien entendu qu'il existe une manière différente de vivre qui implique une relation belle et profonde avec Jésus-Christ. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'avoir une relation avec Jésus-Christ, vous pouvez venir me trouver ou Daniel après la célébration.